Il est 21h30 à Paris, une heure de moins à Yaoundé, 19h30 temps universel. Merci d'écouter Radio France Internationale.
Afrique Soir, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. Au Cameroun, le gouvernement communique enfin sur les rumeurs concernant l'état de santé du président Paul Biya. 92 ans, dont l'absence prolongée de l'espace public, interroge. L'ouverture du procès de Charles Onana devant le tribunal correctionnel de Paris, l'auteur franco-camerounais, est jugé pour contestation de l'existence d'un crime de génocide. Autre procès, celui de l'économiste Étienne Fakaba Sissoko au Mali. L'audience prévue hier sur sa demande de mise en liberté provisoire a été refusée. Il reste donc en détention. On parlera également de l'avenir de plus en plus incertain des sociétés minières étrangères au Burkina Faso. Le pays envisage de revoir les contrats des compagnies minières aurifères étrangères. Un communiqué officiel du gouvernement camerounais sur l'état de santé du président Paul Biya. Le chef de l'État camerounais, toujours à Genève en Suisse, ne s'est pas rendu à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies fin septembre, où il était annoncé. Il n'était également pas présent au sommet de la francophonie les 4 et 5 octobre à Paris, pas plus qu'à Hambourg en Allemagne en ce début de semaine. La santé de cet homme de près de 92 ans qui dirige le Cameroun depuis 42 ans est source de conjectures et de préoccupations ces derniers jours. On fait le point avec Polycarpe Samba.
Ce qui a fait réagir le gouvernement, c'est une vidéo diffusée en ligne par une chaîne de télévision privée ce mardi. ABS pour Africa Broadcasting Service est basée à Houston, au Texas, aux États-Unis. ABS affirmait tôt ce matin que le président Paul Biya était mort, déclarant avoir des informations provenant du Cameroun, de Suisse et de France. Dans un communiqué publié en fin d'après-midi, René Sadi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a dénoncé des rumeurs qui relèvent du fantasme et de la pure imagination, rumeurs auxquelles il dit apporter un démenti formel. Avant ce communiqué, deux autres ministres, membres du comité central du RDPC, parti majoritaire, ont aussi dénoncé ces rumeurs. Pour Jacques Famdongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, ce sont des allégations dénuées de tout fondement. Le ministre du Travail, Grégoire Ogona, a quant à lui déclaré cet après-midi que ceux qui tentent de tromper l'opinion en annonçant le décès du chef de l'État camerounais doivent payer le prix fort, a-t-il suggéré. Plus d'un mois après le départ du président Paul Biya du Cameroun pour le sommet Chine d'Afrique, accompagné de son épouse Chantal Biya, aucune date de retour à Yaoundé n'est annoncée. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Les députés kényans ont adopté ce mardi soir une motion de destitution du vice-président. Rigathi Gachagua est notamment accusé de corruption dans le cadre de cette procédure inédite qui est le point culminant de plusieurs mois de conflits ouverts avec le président et son adjoint. Soutenu par une équipe d'une vingtaine d'avocats, Rigathi Gachagua s'est défendu devant les députés pendant près de 2 heures ce mardi soir en s'appuyant sur un document de pas moins de 500 pages. La motion a été approuvée par 281 députés sur les 349 membres de l'Assemblée nationale, soit plus des 2/3 requis selon le président du Parlement. La motion doit désormais être soumise au Sénat où 45 voix seront nécessaires. Le procès de Charles Onana s'est ouvert hier devant le tribunal correctionnel de Paris en France. L'auteur franco-camerounais est jugé aux côtés de son coéditeur, pour contestation de l'existence d'un crime de génocide, précisément le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Il est poursuivi pour des propos tenus dans son livre « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise » paru en 2019. En 2020, la FIDH, la Ligue des droits de l'homme et l'organisation en survie avaient porté plainte. Après l'audition de Charles Onana hier, c'est au tour des témoins d'être entendus. Explication Florence Maurice.
Face au juge, Charles Onana s'est défendu de contester l'existence du crime de génocide. « Je ne nie pas du tout le génocide et ne le ferai jamais », a-t-il déclaré, dénonçant un procès d'intention. Pourtant, dans le livre mis en cause dans ce procès, l'auteur franco-camerounais place entre guillemets le terme de génocide. Il parle de dogme ou d'idéologie du génocide. Il écrit également qu'affirmer que le génocide des Tutsis de 94 au Rwanda a été planifié par le régime Hutu constituerait, je cite, une thèse conspirationniste sioniste et même l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle, fin de citation. L'existence de cette planification a pourtant été reconnue par plusieurs juridictions, aussi bien en France qu'à l'étranger. Pour sa défense, Charles Onana a cité à comparaître une vingtaine de témoins, dont plusieurs anciens militaires français et rwandais. Les parties civiles ont-elles sollicité le témoignage de juristes et d'historiens ? À 60 ans, Charles Onana est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, dont plusieurs sont controversés. En 2020, sa participation à un colloque sur les Grands Lacs organisé dans l'enceinte du Sénat français avait suscité un tollé.
Florence Maurice, j'ajoute que l'audition des témoins doit se poursuivre jeudi et vendredi matin. Justice encore au Mali cette fois. Le procès en appel de l'économiste Étienne Fakaba Sissoko devait se tenir hier. Ancien conseiller à la présidence, ou à la primature, devenu une voix critique des autorités de transition. Il avait été condamné en mai dernier à 2 ans de prison, dont 1 en ferme, et a payé 3 millions de francs CFA de dommages et intérêts à l'État, notamment pour atteinte au crédit de l'État. En cause, un livre publié fin 2023, ouvrage dans lequel il dénonçait la propagande du gouvernement de transition. Mais hier, l'audience prévue n'a porté que sur sa demande de mise en liberté provisoire. Et pour le moment, Étienne Fakaba Sissoko reste donc en détention. David Baché nous en dit plus.
Sa première déception, racontent les proches d'Étienne Fakaba Sissoko, est d'être reparti en prison. Mais sa déception la plus grande est de ne pas avoir été jugé sur le fond. Contre toute attente, seule sa demande de mise en liberté provisoire a été examinée. Son avocat a donc soulevé des arguments professionnels. L'économiste enseigne à la faculté et passe lui-même le concours du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ou encore des arguments familiaux et sanitaires. Il est diabétique, père de famille, et sa mère, âgée et diabétique elle-même, vit sous son toit. Maître Marouf Sacco a surtout rappelé qu'Étienne Fakaba Sissoko était détenu depuis plus de 6 mois de manière préventive, une durée qui dépasse selon lui le raisonnable, alors qu'il existe des mesures alternatives: libération sous contrôle judiciaire strict, assignation à résidence, remise du passeport. Sollicité par RFI, le procureur près la cour d'appel de Bamako n'a pas donné suite. Le délibéré sur la demande de mise en liberté provisoire est fixée à lundi prochain. Étienne Fakaba Sissoko attend surtout une date pour être jugé sur le fond. Depuis le début de la procédure, sa défense dénonce un procès politique d'intimidation. Amnesty International considère que la détention d'Étienne Fakaba Sissoko est arbitraire, qu'il doit être libéré et sa peine révoquée.
David Baché, l'armée malienne indique dans un communiqué diffusé ce mardi après-midi qu'une opération de contrôle de zone est en cours depuis plusieurs jours dans la région de Kidal et qu'elle a pu récupérer les dépouilles de leurs frères d'armes tombés près de Tinzawaten fin juillet. Les rebelles du CSP avaient alors tué plusieurs dizaines de soldats maliens et de mercenaires du groupe Wagner. C'est la première fois que l'armée malienne communique sur cette opération. Selon les informations de RFI, environ 70 véhicules militaires chargés de soldats et de supplétifs du groupe Wagner sont mobilisés depuis fin septembre. Beaucoup s'attendaient d'ailleurs à une nouvelle bataille en forme de revanche. Le convoi a fait marche arrière pendant le week-end et repris la direction de Kidal. L'avenir de plus en plus incertain des sociétés minières étrangères au Burkina Faso. Dans une prise de parole sur la radio publique ce dimanche, le capitaine Ibrahim Traoré a assuré qu'il était en train de retirer des permis d'exploitation aux multinationales présentes sur le sol du Burkina Faso. Le pays pointe, faut-il le rappeler, au 4e rang des producteurs d'or sur le continent. Les précisions d'Alexis Bédu.
Les grands miniers internationaux sont dans le viseur de la junte, notamment le britannique Endeavour Mining, le canadien Orezone ou l'australien West African Resources. Dans le pays, il existe 13 grandes mines industrielles qui produisent plus de 50 tonnes d'or par an et le Burkina souhaite exploiter directement ces gisements aurifères. Une nationalisation du secteur à petits pas via notamment l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, qui a commencé avec sa première mine dans le sud-ouest à Mid-Hebdo. Une annonce éminemment politique d'Ibrahim Traoré. Depuis son accession au pouvoir, la junte n'a cessé d'augmenter les redevances sur la production d'or. Conséquence immédiate en bourse, en début de semaine, les actions d'Endeavour Mining cotées à Londres ont chuté de plus de 6%. Contacté par RFI, Orezone n'a pas donné suite. Le minier West African Resources a lui prévenu ce mardi avoir reçu l'assurance de la junte que son permis ne serait pas retiré. Est-ce que la nouvelle mine d'or octroyée à la société russe Nordgold il y a 2 ans sera aussi visé? Dans son intervention, Ibrahim Traoré n'a pas précisé quel permis d'exploitation ni quand il serait suspendu.
Alexis Bédu. Et puis l'acteur Idriss Elba, invité prestigieux de la deuxième édition du sommet du cinéma africain à Accra au Ghana, veut défendre et promouvoir l'industrie cinématographique du continent. Le comédien de 52 ans, né d'une mère ghanéenne, pense que l'essor du cinéma africain doit passer par l'Afrique. Les cinéastes africains doivent prendre le contrôle de leur propre récit et ne pas compter uniquement sur les géants mondiaux de la diffusion comme Netflix ou encore Prime, précise Idriss Elba. Il est 21h40 à Paris. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale.